les sentiers du monde. Une émission proposée par Nadia et Kadri Aga.
Réalisation Medjid Fares.
Kadri Aga, bonsoir.
Bonsoir Nadia.
Bonsoir chers éditeurs. Eh bien, où allons-nous ce soir?
Eh bien, nous irons en Colombie, approcher un peuple, les Taïronas.
Ah, les Taïronas. Oui. On a entendu parler des Mayas, on a entendu parler des Incas, des Aztèques, mais enfin, les Taïronas sont beaucoup moins connus.
Oui, mais enfin moins connus pour le monde entier, mais pourtant, dans leur région, ils suscitent beaucoup d'intérêt. Du moins depuis une quinzaine d'années, sinon un peu plus.
Oui, c'est récent. Oui.
Alors, les Taïronas vivent dans une région proche du Venezuela, donc dans le nord de la Colombie, sur la partie côtière de la mer des Caraïbes, donc sur une montagne. Enfin, ils vivaient parce que les Taïronas n'existent plus. Ce sont leurs descendants qui continuent à vivre et qui sont les Kogi, les Arhuacas. Alors, ils vivent dans cette région montagneuse qui est la chaîne de Santa Marta, que nous avons évoqué lorsque nous avons parlé du Venezuela. Donc, c'est la chaîne frontalière, la chaîne de Santa Marta de la Sierra Nevada, en pleine forêt vierge, parce que c'est la forêt vierge. C'est un site exceptionnel qui est étrange et mystérieux. Et ils vivent dans un endroit qu'on appelle depuis peu la Ciudad Perdida, donc la cité perdue, qui est bâtie à flanc de montagne, enfin la cité, mais disons plusieurs cités, nous le verrons beaucoup plus loin. Donc à flanc de montagne, par des hommes eux-mêmes, donc les Taïronas, étaient exceptionnels, des hommes exceptionnels que les Espagnols ont baptisé Taïronas. Allez savoir pourquoi, je ne saurais pas vous le dire. Alors ceux-ci ont, durant des siècles, été des architectes bâtisseurs, laissant une œuvre fantastique, peu commune. Cette œuvre, à savoir la sculpture de toute la montagne.
En effet, pour être exceptionnel et fantastique, ça l'est, la sculpture de la montagne.
La sculpture de la montagne, toute la montagne a été aménagée pour eux, pour leur vie, pour organiser leur vie. Et quand on arrive, quand on découvre cette montagne, après avoir défraîchi, donc après avoir enlevé tout ce que la forêt a reconquis. Donc,
ah, parce que maintenant...
Oui, oui. Oui, parce qu'il y a des lianes, il y a des tas de buissons, il y a des arbres qui ont poussé dans ces endroits. Mais après avoir pratiquement nettoyé tout ça, on découvre des choses fantastiques, sensationnelles. Eh bien, le site, c'est un des lieux archéologiques les plus prestigieux du monde. Et il vient d'être à peine... découvert.
C'est bizarre.
Officiellement, on s'entend. Mmh. Je dis officiellement parce que, jusqu'à un certain temps, depuis la conquête espagnole, donc de la Colombie, enfin de toute la région, ce site n'a jamais été abandonné. Donc, d'une part par les descendants des Taïronas, et aussi par les gens qui cherchaient des trésors, notamment ceux qui cherchaient l'Eldorado. Souvenez-vous, lorsque nous avons parlé, alors on a situé, oui, surtout quand on a parlé du Venezuela, on a situé l'Eldorado dans ces régions, entre la frontière, donc Maracaibo, donc la frontière du Venezuela, et cette frontière de Colombie. Et Eh bien, depuis uniquement 1961, officiellement, on sait que les Taïronas ont existé. Et on a découvert ce site. Eh bien, parce que, mais avant, donc, il y avait les guaqueros, qui sont des pilleurs, donc de trésors, de tombes. Eux l'ont jamais perdu de vue, ils n'ont jamais perdu de vue ce site, ils l'ont toujours pratiquement retourné pour trouver.
Ils recelaient des trésors.
Oui, ils recelaient, jusqu'à présent, ils continuent à receler des trésors. Leur avis aux amateurs. Oui. Et donc, eux ont toujours dépouillé ce site. Les Taïronas ont bâti, donc, au flanc de la montagne, une espèce de labyrinthe d'escaliers et de sentiers entre le début du VIe siècle, ils ont commencé après Jésus-Christ, et l'arrivée des conquistadors, donc les conquistadors espagnols, en nous laissant une énigme à la mesure des sites prestigieux précolombiens tels que Machu Picchu ou les animaux géants de Nazca, donc, ce qu'on avait vu aussi au Pérou.
C'est-à-dire avant l'arrivée,
Marcahuasi, donc.
Avant l'arrivée de Christophe Colomb.
Oui, avant la découverte de l'Amérique par l'Européen.
Oui.
Alors, ce site en lui-même, est un territoire de 100 000 hectares de forêt, donc c'est immense. 100 000 hectares de forêt, avec à peu près 200 villes ou villages, 200 localités recensées jusqu'à présent. D'ailleurs, le site le plus important s'appelle Buritaca 200, donc 200. Buritaca 200, parce que c'est le 200e site découvert le long du fleuve Buritaca dans la vallée. Et actuellement, sur les 100 000 hectares donc de forêt, il y a à peu près 200 hectares défrichés.
C'est peu.
Oui, c'est très peu, parce qu'il y a très peu de moyens. La région est aussi, pourquoi c'est peu? Parce que c'est une forêt vierge, et les moyens suffisants, les moyens nécessaires pour découvrir, pour dégager, si vous voulez, pour entamer des recherches archéologiques n'ont pas été dégagées, ou bien ceux qui ont été dégagés ne suffisent pas, suffisent à peine à entretenir ce qui a déjà été trouvé. Alors, et en plus, donc, c'est une forêt vierge, il faudra vous préciser que toute la région est la région de Santa Marta, forêt, est une des régions la plus riche du monde en serpents venimeux. Mais ça vous donne déjà une idée donc de ce site-là. Donc s'il n'y a que 200 hectares à peine de défrichés, et ça suscite donc un émerveillement, ça vous donne déjà une idée de l'apothéose qui a prévalu à la conception du site en lui-même. Et vous savez, il y a tout un jeu quand on arrive, et c'est assez extraordinaire, c'est inattendu. Il y a un jeu subtil d'escaliers et de plateformes qui s'incrustent dans la montagne et qui donnent à cette montagne une idée de toboggan qui va vous lancer vers le ciel, vous projeter vers le ciel. C'est assez extraordinaire. Et ça part depuis la montagne, depuis le niveau de la mer, parce que la montagne domine la mer des Caraïbes. Oui. Alors, depuis le niveau de la mer jusqu'à des hauteurs qui font 5700 mètres, 5770 mètres. Alors, il y a sur des kilomètres carrés des terrasses en forme de rond ou parfois rectangulaires qui s'imbriquent dans tout ce relief végétal. Et elles se joignent, toutes ces plateformes se joignent en grappe avec des escaliers qui courent de l'une à l'autre. Des escaliers sculptés, en pierre sculptée, taillée, et aussi des plateformes, toute une série donc de plateformes. Tous ces escaliers se projettent pratiquement à travers la forêt, et toute la montagne, ça vous donne une idée, c'est assez extraordinaire, toute cette montagne qu'on arrive, est sculptée. Paraît sculptée. Alors, elle est sculptée en entier.
Mais alors, de la montagne, par les escaliers, on peut atteindre la forêt?
Mais non, on traverse la forêt. La forêt est autour de tous ces escaliers, toute la montagne. La montagne est recouverte de forêt. C'est une forêt tropicale.
Alors, les escaliers sont à travers les...
La forêt, à travers cette forêt vierge. À travers cette forêt vierge. Toute la montagne est sculptée, donc, d'escaliers et de plateformes. Actuellement, on s'interroge sur l'usage de ces escaliers et de ces plateformes. Alors, on s'est demandé si c'était des chemins de récolte, parce qu'il y a, sur différents niveaux, des plantes, donc bien étagées, enfin des plantations, par gradation, donc sur différents niveaux. Ou bien, on s'est dit si c'était pas un chemin de sacrifice, donc des sacrifices aux dieux. La montagne de Santa Marta constitue, sur sa forme en elle-même, une espèce de pyramide triangulaire, alors qui est avec des côtés de 80 km, 80 km à 150 km de côté, cette montagne. C'est la montagne littorale, comme vous l'avez dit, la plus haute pratiquement du monde, avec des pieds dans des criques splendides, des criques, donc la mer des Caraïbes, des criques désertes. Le site géographique inspire en lui-même au divin, donc il inspire, il vous donne une idée de Dieu, tellement c'est beau. Et tout est grandiose. Aussi, comme les Mayas que vous avez évoqués, peut-être que les Taïronas auraient utilisé cette pyramide naturelle, parce que les Mayas, vous vous souvenez quand on a parlé du Mexique, les Mayas concevaient des pyramides, et au sommet de cette pyramide, il y avait un autel de sacrifice. Donc, peut-être que les Taïronas auraient utilisé cette pyramide naturelle pour des sacrifices. Nous ne savons rien.
On ne connaît pas non plus quel genre de sacrifice.
Généralement, il y a eu des sacrifices humains chez les Mayas, souvenez-vous, nous en avons parlé. Mais là, rien ne nous permet de parler de l'utilisation de cette montagne avec ses escaliers, avec ses plateformes, comme étant une pyramide dédiée aux dieux et sur laquelle, donc au fait de laquelle, on procédait à des sacrifices. Rien ne nous permet de dire. C'est la question reste ouverte. Mais, si vous voulez, cependant, la plupart des observateurs scientifiques estiment que la montagne était une immense serre, donc un immense endroit où on faisait toutes sortes de cultures. Et à chaque niveau, donc, de climat, parce que depuis le niveau de la mer jusqu'à plus de 5000 mètres, alors... Donc, à chaque niveau de climat, selon les degrés de cette montagne, depuis donc la mer jusqu'à peu près 3000 mètres d'altitude, les Taïronas auraient produit, donc, ou produisaient une part de leurs ressources. Bon, au niveau de la mer, vous avez le sel et le poisson, forcément.
Oui, c'était au sous-sol.
Bon, oui. Alors, puis, il y a eu des... Et partout, et selon les niveaux, on a trouvé des cultures, mais vraiment bien délimitées, pratiquement tracées au cordeau. Alors, des cultures, donc de cacao, de coton, de haricots, de maïs, d'ananas, d'avocats, de papaye et de la fameuse coca. La coca, donc la drogue, la cocaïne. Et alors, c'est tout ça vous donne une idée... C'est pratiquement le rêve écologique.
Oui.
Alors, vous vous rendez compte, on a mis des cités dans la verdure et non le contraire. Maintenant, que font les gens, tous les écolos du monde entier, c'est d'introduire la nature dans la cité. Là, c'est plutôt la cité qui est dans la nature. Et c'est assez extraordinaire. Et parce que la cité, pourquoi parlais-je de cité ? Parce que la cité perdue, la ciudad perdida, enfin, c'est ce qu'on appelait la cité perdue, est vraiment perdue dans le vert, dans tout ce qui est vert, dans toute cette forêt tropicale. Elle est perdue dans ce vert qui est une nature luxuriante, une nature pratiquement... j'ai dit tropical, nous ne sommes pas loin de l'équateur. C'est une nature équatoriale, d'une extrême fécondité. Et vous avez des touffes géantes au départ de cactus depuis la base. Puis vous avez des arbres rouges de lichen. Vous avez des arbres géants avec des orchidées en bouquet. Sur le fait, comme nous avons parlé d'ailleurs, même à Madagascar, ça existe. Donc, sur leur tronc. Vous avez des enchevêtrements de lianes partout. Vous avez, et puis plus vous arrivez vers le haut, sur les arbres, sur les feuillages, des espèces de laitances, donc des espèces de mousse blanche qui recouvrent ces feuilles. Et puis beaucoup plus loin, vous avez des nuées permanentes. C'est le domaine du mystérieux, le domaine. Et à partir de ces nuées, au-delà de ces nuées, on arrive vers le domaine de lieu, des dieux. Et toutes ces nuées, de temps en temps, quand on arrive au-delà de 3000 mètres, on va faire 4000 mètres, vous avez des percées dans ces nuées de bruyères rouges et des géraniums, donc des amas de géraniums, c'est extraordinaire, des géraniums qui délimitent et très très bien, et d'une façon bien sûr bienveillante pour vous rassurer, tous ces escaliers, tous ces passages. Alors, et tout ce chemin, une fois que le chemin, parce que jusqu'à présent, les gens continuent pour pouvoir accéder à tout ça, étant donné que tout est envahi, pour accéder, on taille le chemin à la machette pour pouvoir passer, parce que la nature reprend toujours donc le dessus. Et bon, vous avez toutes sortes, vous avez des plateformes, pratiquement toutes les plateformes, qui se, une fois que vous avez dégagé ça, et bien même les plateformes qui sont conçues en forme de fleurs. Elles se regroupent comme autour d'un pistil, comme ça elles éclatent en forme de fleurs. Et de ces fleurs, vous avez des espèces de tiges qui sont des escaliers qui les relient, des escaliers. Tout est conçu, c'est-à-dire imaginez un avion ou quelqu'un, un oiseau qui plane au-dessus et qui, en plein milieu de cette nature, aperçoit d'immenses fleurs sculptées. Ce sont ces plateformes avec toutes sortes de tiges et qui sont des escaliers. C'est merveilleux, c'est très beau.
Alors, des fleurs partout et puis tout est en forme de fleurs.
Oui, en plus des fleurs naturelles, la conception architecturale donne une idée donc de floralie de pierre, pratiquement tellement, mais de très grosses fleurs qui coiffent cette montagne, ou bien qui la tapissent sur ses flancs. Dès que vous avez une percée ou une trouée, donc au milieu de cette verdure. La cité perdue, puisqu'on parle de Ciudad Perdida, la cité perdue ne le fut pas pour tous, parce que depuis cette conquête espagnole, depuis que les Espagnols sont venus pour essayer de prendre des trésors à la recherche de cet Eldorado, et bien depuis que les Espagnols sont venus, nous avons parlé des guaqueros, qui sont donc ces pilleurs de tombes, et bien tout depuis cette période de la colonisation espagnole, depuis donc les conquistadors, et bien tous les guaqueros n'ont pas arrêté de se succéder de père en fils ou d'ami en ami. Ça dure depuis des siècles. Eh bien, ils se sont succédés dans ces lieux pour profaner les lieux, pour profaner les sites, en traitant donc les tombes comme de véritables mines. Donc ils creusaient les tranchées pour arriver jusqu'à, parce que sous ces plateformes, c'était des tombes, pour arriver jusqu'à la momie qui occupait les lieux. Eh bien, sur des tombes éventrées, il y a des arbres qui ont poussé. On trouve des arbres, des tombes qui ont été éventrées, donc il y a très longtemps. Et il y a des arbres qui ont poussé, et certains terrassements ont pu être même datés. Alors, certains terrassements ont plus d'un siècle. Ce qui veut dire que cette cité qui vient d'être découverte, enfin, ce site, tout le site, parce que la cité n'est pas qu'une cité, tout ce site qui vient d'être découvert officiellement, il y a plus d'un siècle déjà, on le connaissait puisqu'on avait profané ces tombes. Et donc on a profané tout le site, on a éventré, on a remué pratiquement tout. Et donc on a pu dater avec les arbres, la poussée des arbres, la verdure qui a repris, on a pu dater qu'il y avait plus d'un siècle que ces profanations s'étaient opérées. Alors, les Taïronas faisaient, on a parlé de momies, ils faisaient asseoir leurs morts dans des urnes funéraires en terre cuite. Je tiens à vous signaler, et ces urnes, donc, ils les mettaient sous terre. d'immenses urnes, donc en poterie, comme ça, d'immenses jarres, et on mettait à l'intérieur le mort, la momie, qui était assise, en position assise. Cette pratique existe en Asie, et notamment au Japon. Au Japon, ça se faisait il y a encore quelques siècles. Dans certaines régions du Japon, et surtout à Yokohama, eh bien, les morts d'une certaine caste étaient enterrés dans des urnes, mis sous terre dans des urnes en terre cuite. Ce qui nous ramène d'ailleurs de toute façon à l'origine de toutes ces peuplades, qui sont des peuplades asiatiques à l'origine. Oui. Vous vous souvenez, nous en avons parlé une première fois. Et il les mettait donc sous terre avec des bijoux, toutes sortes de bijoux ou d'objets leur ayant appartenu, durant leur vie. Ce sont et généralement beaucoup de représentations zoomorphiques. Ça peut être donc ces représentations peuvent symboliser un objet du culte. Je pourrais vous dire. Que ça peut aussi nous rappeler, lorsque nous avons parlé des Indiens au Mexique, les Chiapas, je vous avais dit que chaque individu avait un animal compagnon, un totem.
Oui, oui.
Donc pratiquement, ça peut être ces animaux zoomorphiques, enfin ces représentations zoomorphiques, pouvaient être, et généralement c'est soit des hommes avec une tête d'animal ou l'inverse, ça pouvait être donc cet animal compagnon.
Oui, représentation de cet animal.
Oui, cet animal. Oui, oui. Ce ne sont que des suppositions.
Oui.
Alors, et il y a aussi des peaux de terre cuite, donc aussi avec des visages aplatis sur le col au-dessus des visages, donc d'êtres humains. Il y avait aussi des statuettes en forme de grenouilles. Donc, ou alors des hommes, donc je veux dire, des hommes zoocéphales, c'est-à-dire des individus avec une tête animale. Probablement, parce que rien n'est sûr. Probablement, ça pouvait être cet animal compagnon, le totem. Mais rien n'est sûr. Avec, et aussi, on enterrait des bâtons, on trouve partout des bâtons de commandement. Mais chacun en fonction. Ça ne voulait pas dire que chacun était commandant ou avait une fonction de commandement. Mais chacun en fonction de la position sociale qu'il occupait. Un bâton de commandement.
Et c'était représenté par un bâton ?
Un bâton, mais sculpté en pierre. Donc c'est un bâton qui sont pratiquement en pierre d'un gris bleu. Ou alors, ça pouvait être aussi. Très peu, je ne sais pas, mais on a trouvé aussi, à la place de ces trucs en pierre, des bâtons sculptés dans du bois. Mais chacun, donc je vous ai dit, il y a des représentations diverses, et chacune de ces représentations symbolisant la position sociale de l'individu.
Oui. Voilà.
Et il y avait aussi des haches de pierre taillées. Pourquoi cette hache ? Nul ne le sait, dans chaque tombe.
Oui.
Qui sont, et il y a aussi les fameux oiseaux d'or, en or, qu'on voit partout, notamment donc en Amérique latine, vous savez, le condor ou le faucon.
Oui.
Alors, des oiseaux en or, des colliers de pierre, des pectoraux qu'on mettait là aussi en or, et des anneaux de nez, parce que les gens mettaient des anneaux au nez, comme en Asie aussi, et des boucles d'oreilles en tumbaga. Le tumbaga, c'est ces fameux, cet alliage entre l'or et le cuivre, qu'on utilisait beaucoup à cette époque là-bas. Eh bien, la Ciudad Perdida, n'ayant pas de statut scientifique particulier, les guaqueros, eux, se sont, malgré tout, de leur côté, se sont constitués en 1970, on a un puissant syndicat. Vous savez, tous ces pilleurs, ils ont constitué un syndicat qui, à cette époque-là, comptait plus de 7000 personnes, 7000 adhérents, vous vous rendez compte ?
Une mafia.
Ah oui, une véritable. Et ils étaient là pour pratiquement ratisser la montagne. Et se sont constitués, se sont donné une autorité juridique, un statut particulier. Et ce qui vous donne donc cette idée de l'importance du site. Alors, les autorités n'ayant pas encore déterminé l'importance de ce site, bien sûr, on le sait, les missions officielles ne comptent que peu d'effectifs. Alors, vous avez, et elles ne sont pas équipées. Le site n'est pas classé patrimoine universel par l'UNESCO, comme beaucoup de sites un peu partout. Et il n'est même pas considéré comme patrimoine national. Du moins, il n'était pas il y a quelques années. Peut-être l'a-t-il été récemment. Mais jusqu'à il y a quelques années, ce site n'était même pas reconnu comme patrimoine national. Vous vous rendez compte ? Alors, bon, ça n'intéressait pas les autorités. Les pilleurs pouvaient venir et faire ce qu'ils voulaient sur ce site.
Pourtant, la cité perdue mérite mieux que cela.
Oui, parce que le site est splendide, il est grandiose. Bon, mais vous savez, la Colombie a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sites. C'est un pays qui est très riche sur le plan archéologique. Alors, donc, les Taïronas, pourtant, qui ont conçu cette cité, la Ciudad Perdida, celle qu'on nomme ainsi en Colombie, la Ciudad Perdida, et toutes les autres cités donc, de la montagne, tout ce site donc sur cette immense montagne, sur ces plus de 100 000 hectares pratiquement de montagne, sont avec les Incas, les Aztèques et les Mayas, les seuls bâtisseurs de l'Amérique précolombienne. Donc, les chroniques des conquistadors qui découvrirent le peuple Taïrona en 1520. Donc, vous savez, nous avons parlé, lorsque nous avons parlé du Venezuela, il y avait donc toute une armée qui était commandée par un certain Sébastien Belacasar, donc commandé espagnol. Eh bien, il envoyait ses gens chercher l'Eldorado. Oui. Je vous avais même dit, les Taïronas avaient un procédé pour faire la feuille d'or, transformer l'or. Et lorsque l'on parlait de la légende de l'Eldorado, de ce jeune prince qui se recouvrait d'or chaque soir, eh bien, on pense que les Taïronas, ayant ce procédé de feuille d'or, transformer l'or en feuille qui pouvait s'appliquer pratiquement sur le corps, on pense, alors les conquistadors ont cru que c'était aussi cette région, parce qu'ils ont ratissé pratiquement tout, de Maracaibo au Venezuela, cette région, ils sont allés partout en Bolivie, ils ont essayé de trouver ce fameux Eldorado, cette fameuse richesse. Eh bien, les conquistadors précisent déjà, en 1520 dans leur chronique, précisent qu'ils virent de très très grandes cités, des cités extraordinaires, des cités qui les avaient impressionnés. Nous avons les chroniques qui sont encore là, qui relatent tout ça. Certaines cités qui comprenaient jusqu'à plus d'un millier de demeures, de maisons capables, et ces cités étaient capables de dépêcher sur une simple alliance plus de 20 000 hommes en armes. Donc ces 20 000 hommes en armes qui les combattirent d'ailleurs. Des villes, avec chacune de ces cités, il y avait des quartiers qui étaient spécialisés, et chaque quartier, comme on trouve ça d'ailleurs au Moyen-Âge, un peu partout, des quartiers réservés à une forme de l'artisanat. Donc le quartier des forgerons, le quartier des tisseurs, des cornets. Oui, et bien, et toute cette cité était tellement bien organisée que les Espagnols n'en étaient pas revenus. Bon, bien sûr, ils se sont chargés de les détruire. Ils n'étaient pas du tout intéressés.
Ils n'auraient pas dû. Oui. Enfin, même pour eux-mêmes, ils n'auraient pas dû détruire.
Vous savez, en 1520, les gens, on va pas en Amérique, on n'amène pas des armées uniquement pour venir contempler le site.
Oui,
on détruit des populations pour leur prendre leur trésor. Oui, et les Espagnols, les conquistadors, étaient, eux, intéressés par l'or. C'est pour ça qu'ils ont poursuivi ce fameux mythe de l'Eldorado. Eh bien, durant plus d'un siècle, ils n'ont fait que ça. Ils ont combattu les Taïronas durant plus d'un siècle. Ils ont mis plus de 100 ans pour les anéantir et qu'ils les ont complètement exterminés. Malgré, d'ailleurs, il y a des moines et tout qui rapportaient, malgré les fameuses flèches empoisonnées qui tuaient instantanément les soldats espagnols. Parce que les Taïronas avaient des flèches empoisonnées.
Au curare, ce qu'on appelle, enfin...
Je ne sais pas si c'était au curare,
enfin,
mais
un
je...
Un poison.
Oui, un poison. Et rappelez-vous, je viens de vous dire que la montagne, le plus grand nombre de variétés de serpents venimeux du monde.
Ah oui, ça, oui.
Eh bien, ils ont mis plus d'un siècle à les défaire, à les détruire. Eh bien, la défaite allait provoquer la ruine, celle du fantastique écosystème. Parce que si on croit ce que nous disent les scientifiques actuellement, toute la région de la Ciudad Perdida est un merveilleux écosystème. Eh bien, la ruine de cet écosystème.
C'est dommage.
Oui, c'est dommage. Eh bien, agriculteurs, les Taïronas se révélèrent aussi d'étonnants techniciens de la préservation de la nature. Ils ont évité pendant des siècles l'érosion dans des terres cultivables. Donc, pratiquement.
Eh bien, parce que on prévient à l'érosion en plantant des arbres.
Vous savez, non, eux, avec les pierres, les arbres et tout leur système.
Tout
il y a
système,
les arbres.
C'était oui, le système complet.
Oui, rappelez-vous, lorsque nous avons parlé de l'Amazonie, il y a très peu de terre en Amazonie. Il y a une nature luxuriante, mais c'est un pays d'érosion. Et c'est une région qui n'est pas très loin. La Colombie, c'est pratiquement. Les forêts sont identiques. Pourquoi ? Parce qu'il y a des pluies extraordinaires. Vous savez, c'est la saison des pluies. Les pluies qui tombent, elles sont incessantes parfois. Et bien, avec la pluie, vous avez l'érosion. Et bien, eux, ils ont pu préserver tout ça. Ils ont préservé la forêt en rendant toute la cohérence à cet ensemble complexe qui est la culture et l'exploitation. Néanmoins, c'est dans l'art architectural, donc dans toute cette sculpture, qu'on pouvait les admirer, que nous pouvons actuellement les admirer. Nous savons qu'ils ont fait tout ça, nous pensons qu'ils ont fait tout ça pour la culture, pour produire, donc pour avoir une variété infinie de produits de consommation. Mais par quoi pouvons-nous admirer ce qu'ils furent et ce qu'ils ont laissé ? Eh bien, par cette architecture, par cette sculpture de la montagne. Eh bien, tout est bâti et tout tient depuis des siècles en se passant de mortier. Il n'y a pas de ciment, il n'y a rien. Tous les murs sont montés avec des pierres taillées finement, avec une précision de joaillier. Pratiquement toutes les pierres sont taillées en forme de diamant. Elles s'enchassent les unes dans les autres. Rien ne bouge en pointe, comme ça, comme un diamant.
Mais il y a eu des destructions quand même. On n'a pas retrouvé les choses telles qu'elles avaient...
Oui, dans certaines régions, mais le site est immense. Vous savez, il y a des tombes comme ça, mais le site est beau. Le site, on trouve des endroits intacts. Le site est immense. Je vous ai dit, ce n'est pas une ruine de l'ordre de Pompéi ou Djamila, ici. On a découvert, défricher 200 hectares. Mais il y a des 100 000 hectares. 100 000 hectares, le site était... C'est extraordinaire. Vous avez des ruines à profusion. Il faut aller défricher. Il faut aller enlever toute cette verdure, toute cette mousse, tout ce lichen qui recouvre tout ça, tous ces arbres. Il faut enlever. Et tout est intact. Et les guacueros, eux, le savent. Et ils continuent. Rien ne leur interdit. Il n'y a aucun décret officiel de l'État qui interdit aux pilleurs de tombes de le faire. Cependant, on sait depuis peu que les Taïronas, contrairement à leurs voisins qui étaient les Aztèques, donc de l'Amérique centrale, qui nous ont laissé, eux, une langue Nous savons qu'ils avaient une langue et des textes sacrés. Les Incas, qui ont laissé des structures de leur empire avec les structures de l'empire, nous savons, ils étaient très bien organisés. Ces Incas, nous savons quelque chose. Les Mayas, donc avec une symbolique mystique, une religion, hein, eh bien, les Taïrounas, eux, n'ont rien laissé si ce n'est cette architecture. C'est pour ça qu'il reste mystérieux. Nous ne savons pas. Il n'y a ni dessin, il n'y a ni pétroglyphe, ni gravure, ni sculpture, rien, rien qui précise qu'il y avait un code de communication entre une langue ou une symbolique ou une sémantique particulière qui permet de dire, tiens, ils agissaient comme ça ou comme ça. Nous ne savons rien. Eh bien, donc il n'y a pas d'idée, il n'y a pas d'idée codée ou chiffrée de leur vie et de leur communication. Mais leurs escaliers et leurs plateformes, sous lesquelles s'enfuissent des tombes, donc des tombes de mort et tout ça, que le carbone 14 fait parfois remonter à plus de 1000 ans, donc 10 siècles. Le carbone 14, je le rappelle à nos auditeurs, c'est grâce au carbone 14 que nous pouvons établir une datation. Donc c'est une technique utilisée pour l'archéologie. Et donc, la cité perdue, Buritaca 200, donc Buritaca 200, répertoire le long de ce seul fleuve qui traverse la vallée dans cette montagne, n'est pas encore totalement explorée. C'était hier, en 1961, vous vous rendez compte, rien du tout devant toute une humanité, devant des siècles. Eh bien, peut-être trouverons-nous quelque chose, mais nous ne savons pas. Eh bien, nous savons, la seule chose que nous savons, donc pour être sûr, c'est que Buritaca 200, donc la cité perdue, aurait été édifiée entre le XIIIe et le XVe siècle de notre ère. Donc, deux siècles avant l'arrivée, le XVe siècle, non, près de trois siècles avant l'arrivée des Espagnols.
Mais les Taïrounas ont eu des descendants ?
Oui, les Taïrounas ont laissé des descendants qui sont encore aussi mystérieux, qui sont les Kogi, donc les Kogi, ou les Arhuacos, qui, eux, nous disent dans leur mythologie, dans leur concept, qu'un homme jaguar menacé de serpents, c'est normal, le site plein de serpents, nous en revenons, et d'oiseaux, donc il y a une approximation, a donné naissance à leur peuple en pratiquant l'inceste, donc avec sa mère, sa propre mère, qui est la mer, l'eau, donc symbole. Les Kogi, eux, sont que quelques milliers pour l'instant. Ils sont inabordables, inabordables parce que mystérieux, ils sont muets. Et lorsqu'ils contactent des étrangers, ils ne vous le parlent pas quand ils sont seuls. Jamais un Kogi ne se mettra tout seul en face. Il y a toujours trois émissaires, trois représentants de cette population pour vous parler. Eh bien, malgré tout, ils sont, heureusement, et Dieu merci, ils sont protégés par les autorités. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'enceinte sanitaire. On ne les approche pas tellement. Seuls les scientifiques les approchent. Bien sûr, les guacueros, eux, les approchent. Et parfois, ils vont même jusqu'à essayer de les exploiter. Mais, officiellement, on ne les approche pas. Eh bien, ils représentent que quelques milliers. Donc quelques milliers qui sont protégés et ils sont désignés par la lignée des ancêtres. Pour protéger, ils se disent désignés pour protéger le site, le territoire, le pays des anciens. Les Kogi vivent au pied de la montagne, donc au pied sur des altitudes qui ne dépassent pas 1000 mètres. Ils ne sont pas dans ce site, mais ils vont dans ce site pour méditer, pour se souvenir de ce que furent leurs anciens, pour aller donc sur le pas des dieux. Ils appellent ça le pas des dieux, parce qu'au-delà de 4000 mètres, dans cette montagne, il n'y a plus rien de sculpté. Ça va jusqu'à 4000 mètres. Et après 4000 mètres, c'est les dieux. Il faut vous rappeler que les dieux sont dans des hauteurs éthérées, donc dans un site dans le ciel. Toujours. Eh bien, mais que peuvent-ils, eux, les Kogi, devant l'avidité des guaqueros et devant l'insouciance des autorités qui ne protègent pas cet ensemble? Et les guaqueros, eux, de toute façon, à partir du moment où ils sont là pour ramasser des trésors, personne ne les arrêtera. Ils n'hésitent pas à faire feu. Ils tuent. Ils arrivent même parfois à s'entretuer entre eux. Il y a souvent eu des assassinats, et encore récemment, pas très longtemps, des assassinats. Lorsque quelqu'un trouve un butin exceptionnel, il se le fait voler par son voisin, et c'est un peu la ruée vers l'or.
Oui, c'est la vie de chercheur d'or.
Oui,
c'est ça.
Eh bien, eux, les Kogis, passent leur temps à parcourir la montagne pour être au bon endroit, au bon moment, au moment opportun, choisi par les dieux pour converser avec eux.
Avec les dieux ?
Oui, c'est-à-dire les Kogis, eux, n'arrêtent pas de sillonner cette montagne pour être là, quand les dieux auront choisi de parler aux hommes, de leur parler à eux, leurs dieux. Alors, ils disent qu'ils doivent veiller à ce que le soleil continue à se lever chaque jour et à ce que la lune continue à tourner. Les Kogis disent entretenir ce système.
Donc, Tous les peuples ont toujours craint l'absence du soleil et de la lune.
Ah oui, c'est très important. Sans le soleil, il n'y a pas la vie. Et la lune est la notion. C'est le soleil de la nuit.
Oui.
La lune, c'est Dieu. C'est Dieu pour beaucoup de peuples. C'est la mer aussi. C'est un symbole féminin. C'est surtout la mer. Les origines mystérieuses. Les hommes étant venus de l'espace, d'un espace. La plupart des peuples vous parlent d'un ancêtre venu de très loin, de je ne sais où, du ciel. Eh bien, la lune doit être entretenue. Surtout chez les peuples primitifs, la lune a symbole divin. Un symbole divin. Eh bien, eux, les Kogis, vivent dans des maisons conçues toutes, pratiquement toutes, sur le même modèle. Il n'y a pas une maison différente. Toutes ces maisons sont rondes, en pisé, avec des toits de palmes. On peut imaginer, parce qu'il n'y a plus de maison, ce qui est assez paradoxal, parce que dans le site des Taïronas, il n'y a pas une seule maison. Il y a des plateformes et des escaliers, des murs, des plateformes. Il n'y a aucune maison. Et c'est pour ça que nous n'avons pas idée exacte de l'utilisation de cette montagne. On ne sait pas. Mais on peut imaginer que la maison de leurs descendants, les Kogis, les Arhuacos, donc, sont identiques ou faites du moins sur leur modèle, le modèle à eux, le modèle des Taïronas. Néanmoins, les dimensions des habitations, si c'était des habitations qu'il y avait sur ces plateformes, étaient différentes. Elles étaient établies chez les Taïronas en fonction de la hiérarchie sociale. Le cacique du village, lui, avait droit à la plus grande demeure.
Et le maître du village.
Oui, oui. C'est Alors, la plus grande demeure et les hôtes, donc, à des constructions carrées. Les hôtes, donc, les invités. Mais tous les habitants de Taïronas avaient des demeures rondes, circulaires. Mais le cacique avait une maison plus grande. Et chacun, les grandeurs déterminées en fonction de cette position de la société. Seules les constructions carrées ou rectangulaires étant réservées à ceux qui n'étaient pas Taïronas. Les Taïronas, une fois bâti leur terrain à flanc de montagne, mettaient au Rémi leur maison dessus, sur ces plateformes, donc, et leur tombe dessous, puisque les tombes sont au-dessous des plateformes. Ainsi, ils auraient établi un lien permanent entre la vie et la mort, celle-ci donnant des racines, donnant des assises à la vie, donc des racines à la vie, qui aussi, il ne faut pas oublier, puisque le mort est toujours un ancêtre, et elle assure un ferment historique et culturel pour le vivant. Le vivant se réfère toujours au mort, nous l'avons tout le temps vu toutes les peuplades que nous avons abordées. Alors, et il y a aussi, donc, à partir du moment où c'est la terre, s'il enrichit, c'est un peu symbolique à l'agriculture, et ce sont un peuple d'agriculteurs, parce que nous constatons qu'il reste des endroits réservés à différentes cultures, des endroits tracés pratiquement au cordeau, bien délimités, comme tous les paysans, comme tous les agriculteurs dans le monde entier, vous verrez ça. Il reste ainsi bien établi. Donc, ce que nous savons, c'est que cette montagne, quand même, était réservée à l'agriculture. Et en fonction de différents niveaux, ils produisaient selon les besoins qu'ils avaient, eux, Taïronas. Alors, les maisons étaient certainement légères et avaient peu d'importance, puisqu'elles ont disparu, on ne les retrouve pas. Et elles n'étaient pas liées, légères, pourquoi ? Parce qu'elles n'étaient pas incisées dans la plateforme. Elles devaient être simplement posées, donc n'ayant pas d'importance, ces maisons légères.
Sans fondation.
Oui, il n'y avait que la plateforme qui était solide, et on mettait par-dessus. Au-dessus de cette plateforme, on devait mettre des maisons. Elles ont seule l'échelle menant aux cieux, donc les plateformes, les escaliers qui serpentent la montagne, tous ces escaliers de pierre taillée, seule cette échelle qui mène aux cieux, au royaume des dieux, reste tel l'exemple constant de la vertu céleste, de cette vertu du divin, du grandiose. Tout, disent-ils, ou du moins ont-ils voulu nous dire, puisqu'il n'y a rien, tout est vain. Tout est vain devant la mort, puisque la mort est là. Nous avons une idée de la mort, leur mort à eux. Tout est vain devant la mort. Tout ce qui fait partie de la vie doit disparaître. Donc, ça n'a pas de raison de rester et de demeurer. Seule la gloire des dieux demeure, puisque c'est vers leur gloire que ces escaliers nous mènent. Seule la gloire des dieux demeure. Elle fait renaître les vertueux. Ils pensent, parce que les Kogis disent être peut-être les gens qui sont la réincarnation de cette Taïronas. Elle fait renaître les vertueux.
Dans un monde meilleur ou alors dans le même monde ?
Nous ne savons pas. Oui. Donc je parle de cette gloire du divin. Oui. Est-ce que les Kogis imaginent que notre monde est meilleur ? Nous ne savons rien. C'est un peuple mystérieux, les Kogis. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils passent leur temps à méditer. Je vous ai dit, ils courent la montagne pour être là, pour pouvoir converser avec Dieu. Toujours aller vers Dieu. Eh bien, le peuple Taïrona n'est plus. Il n'a plus été. Mais sa gloire, elle, renaît. Elle renaît puisqu'on le redécouvre. Et elle reste éternelle. Grâce à, paradoxalement, ceux qui sont en train de le piller, de le détruire, de le voler, parce que c'est grâce aux guacueros, grâce à ces pilleurs de tombes, que nous savons quelle était leur splendeur, que nous savons quelle était la grandeur de ce peuple. Nous savons qu'il y avait des tombes. Eh bien, c'est grâce à ces guacueros que nous connaissons, nous voyons leurs bijoux, que nous voyons leurs poteries, leurs sculptures, chez des revendeurs. Mais c'est un peu grâce à eux. Parce que les autorités officielles, les scientifiques ne sont pas intéressés. Et c'est malheureux. Ce peuple suscite. Il suscite la fascination parce qu'il n'y a rien. Donc, il n'y a rien il n'y a rien qui nous dise, qui nous donne des explications. Et c'est ce qui grandit l'émerveillement. Parce que vous arrivez devant quelque chose qui est grandiose et vous n'avez rien. C'est fantastique, c'est étrange, ce sont des étranges. Eh bien, et chacune des découvertes qui sont faites nous amène d'émerveillement en fascination. On n'aboutit pas sur une surface plane, mais sur une montagne qui grimpe, qui n'en finit pas de grimper jusqu'à plus de 5000 mètres, 5575 mètres. Donc, dans le fait de cette montagne, le sommet dans le fait de cette montagne est le domaine éthéré des dieux. Puisque pour les Taïronas, à partir de 4000 mètres, nul vivant, nul mortel n'a le droit d'y aller. C'est les dieux. La place des dieux, c'est l'emplacement des dieux. Et les hommes, petit à petit, s'organisent à leurs pieds pour avoir le droit méritoire de s'identifier à eux, de s'imaginer que dans leur mort, ils vont s'identifier à eux. Ils vivent selon leur puissance et leur mérite. Sur des plateformes, donc chacun en fonction de la grandeur de sa position sociale, sur des plateformes, des terrasses qui vont de 1,5 mètre jusqu'à 3 mètres de haut, parce que ce sont des terrasses établies, jusqu'à 3 mètres de haut, et d'un diamètre variant, donc de plusieurs mètres, chacun en fonction de sa position. Ce ne sont que des hypothèses, mais n'est-ce pas un système de répartition sociale, toutes ces plateformes différentes. Le soubassement en terre et pierre est recouvert de grandes dalles, des dalles plates, donc qui déborde légèrement pour empêcher l'attaque des fondations par les eaux des pluies, donc qui tombent, vous savez, c'est des déluges parfois. Alors, les milliers de plateformes s'étagent sur des pentes reliées entre elles par un système complexe de sentiers. C'est extraordinaire, ça part dès que vous découvrez une pierre, au détour d'un buisson ou d'un tas d'arbres. Vous avez tous ces escaliers qui se projettent devant vous comme ça. C'est extraordinaire. On a l'impression que c'est vivant. C'est quelque chose qui sinue, comme un serpent, qui sinue cette montagne. Ça part des sentiers et qui partent en escalier. Tout ceci part en escalier. Alors, il y a des routes. Pour eux, en constatant qu'il y a des routes mineures et des axes principaux, pavés de pierres polies, et chaque pierre polie est pavée par groupe de 100, à chaque fois 100. Où en est la symbolique, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous répondre. Des groupes de 100 qui vont d'est en ouest, selon, bien sûr, le mouvement du soleil. C'est un culte solaire qui vient du soleil. Le soleil se lève à l'est et il meurt à l'ouest. Oui. C'est ainsi. Alors, mais l'ouest, puisque ça monte, l'ouest va vers le haut, c'est le domaine de la mort, le milieu, le domaine où nous allons arriver pour renaître dans les dieux. Oui. C'est ce que fait le soleil. Alors, qui est le royaume, donc la course du soleil, tout ce système, la course des hommes est identifiée au soleil. Les derniers escaliers joignent les niveaux, donc, puis d'autres voies qui partent à l'assaut de la montagne. Nous sommes là, quand je parle de ci, qu'à 1100 mètres pratiquement. Mais le jeu se poursuit toujours de plus en plus haut et toujours vers cette gradation qui part d'est en ouest et en partant comme ça à l'accès vers le haut qui va crescendo pratiquement. Toujours plus impressionnant, toujours plus beau. La technique est parfaite et il suffit pratiquement de retirer uniquement le manteau végétal pour retrouver cette gradation qui va par 100. C'est assez extraordinaire. Pourquoi ceci, franchement ? Dans son état primitif, retrouver tout ça dans son état originel. Oui, oui. C'est un joyau archéologique qui garde tout son mystère. Aucune explication ne nous est donnée. Et elle ne peut pas être donnée pour l'instant avec assurance. Nous en sommes tous à des suppositions. Chacun y va avec sa solution à lui ou son idée. Et ce ne sont pas les efforts actuels de l'Institut national d'anthropologie colombien, l'ICAN, il n'y avait que quatre archéologues avec quelques soldats et des terrassiers qui travaillaient. Oui, pratiquement. Donc, scientifiques qui s'occupaient de ceci, alors que les guaqueros, 7000, vous rendez compte. Et ce ne sont pas eux qui pourront nous apporter quelque chose. Que font-ils? D'ailleurs, quand on arrive dans certains sites où sont passés d'ailleurs d'autres gens, c'est un véritable dépotoir. Tout est cassé, il y a des ordures et tout est jeté. Et ça n'est pas entretenu. Alors, il n'y a que les guaqueros et les colons cultivateurs, parce que les colons qui cultivent le coca, il ne faut pas oublier, je vous rappelle en passage, que la Colombie est une plaque tournante du trafic d'héroïne, du coca. Attention, la Colombie est un pays qui pose des problèmes, notamment aux États-Unis d'Amérique, qui est la plaque pratiquement où aboutit toutes les drogues dures sur le continent américain. Alors, donc, seuls les colons et ces guaqueros sont intéressés par les lieux parce que le site est extraordinaire et les terres sont riches. Les objets pillés par les guaqueros sont vendus donc à Santa Marta ou à Barranquilla, donc les villes qui sont là. Finiront-ils par intéresser les chercheurs du monde entier et ainsi on pourrait peut-être avoir une idée de ce peuple qui semble plongé dans ses origines qui semblent à l'état fœtal, donc tel qu'il a été conçu au début, parce qu'il n'y a rien qui nous donne quelque chose sur son évolution. Et malgré que nous ayons, bien sûr, une idée historique de son existence.
C'est un point d'interrogation. Quoi.
Oui, non, parce que non, l'existence, nous le savons, puisqu'ils ont été combattus. Ils ont été combattus par les conquistadors. Ils ont été anéantis par les conquistadors. Nous savons qu'il a existé et nous avons les sites archéologiques qui sont là, qui témoignent de son passage sur Terre. Donc ce peuple est là. Mais ça ne remonte pas très longtemps. Sa disparition ne remonte qu'à quelques siècles, 4 siècles et quelques. pas plus.
Non, je veux dire, le point d'interrogation, c'est la manière dont ils vivaient.
Oui, de toute façon, tout est obscur. Et tout est obscur, comme l'affirme la genèse que comptent leurs descendants, enfin les descendants Kogi. Eh bien, ils disent qu'au commencement, il y avait la mer. Et tout était obscur. Tout est obscur. Il n'y avait ni soleil, ni gens, ni animaux, ni plantes. La mer était, pour eux, partout. Elle était partout, elle environnait tout. Donc c'est une idée de la création, la genèse. Le monde entier vous le diront, tous les scientifiques, savant qu'il y aurait eu la mer. Alors, elle n'était, cette mer n'était ni les gens, ni rien, ni autre chose. Elle était l'esprit de ce qui allait venir. Elle était la pensée et la mémoire. C'est ce que disent les Kogi, donc dans les gens. Tout est obscur pour ce peuple. Ces édifices s'établissent comme une mer de silence. Ils ne nous disent rien, ils ne nous apprennent rien. Nous savons qu'ils sont certainement l'esprit, puisqu'ils sont l'esprit pour les Kogi, leurs descendants. Et ils sont l'esprit de ce qu'il fut, donc, et de ce qui va venir, puisque nous sommes à vouloir les découvrir, à les connaître. Leur révélation, c'est la pensée et la mémoire de leurs descendants, comme l'affirme Genèse. Les Kogi, qui, eux, se défilent à l'approche des étrangers, à l'approche des gens qui viennent, comme nous, pour les aborder, pour essayer de trouver leur mystère. Eh bien, comme ils viennent, ils se défilent, ils fuient, comme devant une vision maléfique, lorsqu'ils voient tous ces étrangers. Une vision maléfique, puisque les étrangers sont venus pour détruire déjà leurs ancêtres. Oui, oui. Ils ont peur d'être détruits, comme ils se méfient en voyant tous les étrangers comme vous et moi, comme d'une vision de la mort certaine. Et c'est ce qui a été pour beaucoup de peuples d'ailleurs. Hélas.
Eh bien, Kadriaga, merci et bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir à tous et à la semaine prochaine.